Nous allons lire aujourd'hui que deux versets, parce que je crois que c'est des versets qui ont beaucoup de choses à nous dire, comme bien sûr toute la parole de Dieu, mais je ne me sentais pas de pouvoir lire tout ce chapitre si riche, numéro 12 aux Romains. Alors on se tiendra qu'aux deux premiers versets qui nous disent « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, pour introduire, je vous avais quitté il y a quelques jours, lorsqu'on lisait Romains 1 et Romains 2, que j'avais pu commenter, et j'avais dit que le chapitre 1, qui donnait une introduction de ce qu'était tout le sujet, le cœur de tout le sujet de cet épître aux Romains, qui était le salut par la foi, puis ce premier chapitre qui nous montrait ô combien le monde est inexcusable de ne pas avoir reconnu Dieu pour ce qu'il est. Alors au chapitre 2, j'avais pu commenter en expliquant que l'apôtre veut montrer que le monde religieux, pourrait-on dire, est encore lui plus inexcusable que le monde parce qu'il a le discernement pour juger le monde et donc il devrait avoir ce discernement pour se juger lui-même. Ô qui es-tu, toi qui juges ? Au chapitre 3, l'apôtre va montrer que toute l'humanité est sous le péché. Tous ont péché, ce verset bien connu, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors au chapitre 4, l'apôtre nous parle de la justification par la foi. Ce n'est que par la foi dans le sacrifice de Jésus que nous tous pécheurs, que nous soyons païens dans le monde, que nous soyons des religieux qui cherchons Dieu sincèrement de tout cœur, toute cette humanité coupable devant Dieu qui est vivant ne peut être sauvée que par sa foi dans le sacrifice de Jésus. Et être justifié, ça veut dire déclaré juste devant Dieu par sa foi. Le chapitre 5, il nous parle des fruits de cette justification par la foi. Le chapitre 6, 7 et 8 nous montrent qu'est-ce que toutes ces vérités font dans le cœur du croyant, en particulier la marche par la chair ou par l'esprit. Il montre le combat, on connaît bien ce chapitre 7 qui se passe en chacun de nous, avec cette loi du péché et cette loi de la parole de Dieu, pourrait-on dire, de la sagesse, cette loi spirituelle qui est en nous, et que seul Jésus peut nous délivrer, et que par cette vie, par l'esprit, eh bien nous accomplissons cette loi qui nous condamnait, elle s'accomplit par cette marche par l'esprit, une fois sauvés par la foi en Jésus. Et alors les chapitres 9, 10, 11 nous parlent du plan de Dieu. Après avoir parlé 6, 7, 8 du plan de toutes ces vérités dans le cœur du croyant, eh bien, il nous parle de ce plan de Dieu où Israël est au centre et nous sommes greffés à ses alliances. Et on arrive donc au chapitre 12, et même je dirais les chapitres 12 à 15, eh bien, il nous parle de comment, après tous ces 11 chapitres, comment est-ce qu'on va se comporter dans notre vie chrétienne, vis-à-vis des autorités, dans notre famille, en communauté. Et le chapitre 12 nous parle en particulier de la communauté. Mais il commence par nous dire « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et vous avez remarqué que j'ai insisté sur « Je vous exhorte donc ». Ce que veut dire l'apôtre, après tout ce que je vous ai dit, je vous exhorte donc à vous offrir. Et en particulier, il reprend ce verset 36 qui dit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Tout ce que je vous ai expliqué, tout cet exposé de la saine doctrine que l'on trouve dans cet épître aux Romains, tout ce que je vous ai dit, eh bien, m'amène à vous dire ceci, que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes ces choses. Et qu'à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Et parce que tout est par lui et pour lui, qui que vous soyez des païens qui sont convaincus de péché, qui sont inexcusables, que vous soyez des religieux qui cherchent Dieu et qui êtes convaincus de péché, parce que vous êtes aussi inexcusables, toute cette humanité inexcusable devant Dieu est sauvée par la foi en Jésus-Christ, qui alors rentre dans ces fruits de cette justification, rentre dans cette vie chrétienne, rentre dans ce grand plan du salut de Dieu. Eh bien, comprenez que tout ça, c'est par lui et pour lui. C'est seul Dieu qui le fait en vous, et c'est que pour lui. Alors, je vous exhorte, et quand il dit « je vous exhorte », en grec le terme veut dire « c'est un appel au secours ». À être de notre côté. L'apôtre Paul, il dit « Je vous exhorte » et c'est comme s'il appelle au secours, nous ici aujourd'hui. Et c'est Romain à qui il écrivait « Je vous appelle au secours, venez à mes côtés pour vous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Parce que l'apôtre, il avait... J'ai presque envie de dire, plus que tout homme, parce que lorsqu'on lit les lettres de Paul, il le dit lui-même, vous rendez compte, je paraphrase, lorsqu'il dit aux Éphésiens, comment Dieu m'a donné de saisir ce mystère de la foi, caché dès avant les siècles, préparé depuis la fondation du monde. Cette grâce que les prophètes en qui l'Esprit de Christ était, ont touché. Elle nous était réservée à nous. Eh bien, lui qui est devant ce si grand mystère, il appelle au secours. Il veut dire, réveillez-vous. Moi, je vous appelle au secours que devant toutes ces vérités que j'ai résumées de Romains 1 jusqu'à Romains 11, devant ça, je vous appelle au secours. Venez avec moi pour vous offrir comme un sacrifice vivant. Car tout ça est pour Dieu. Et devant ces vérités, on ne peut pas rester en nous-mêmes. Mais on ne peut que se donner et glorifier Dieu. Parce que c'est cette splendeur de cet évangile. Et je crois qu'on aura toute l'éternité pour glorifier Dieu, pour nous rendre compte de ce qu'est cet évangile. On dit tellement vite, « Merci Jésus, tu m'as sauvé. » On va tellement vite. On va tellement vite. On va beaucoup trop vite. Et on oublie de se rendre compte qu'on est face à tout un plan du salut. On est face au peuple d'Israël, auquel on est greffé. Des fois, on va vite pour dire, oui, ils n'ont pas reconnu Jésus. Alors que l'apôtre vient de nous dire, dans Romains 11, mais crains, tu n'es pas fou de penser ça. Parce que les Romains, ils pensaient ça. Tu n'es pas fou de penser ça. Toi qui as été greffé, toi qui étais sans Dieu dans le monde, toi qui as eu cette grâce de pouvoir être greffé sur cet olivier, c'est Israël. Est-ce que c'est pour tomber qu'Israël n'a pas reconnu le Messie? Loin de là. C'est pour ça qu'il finit ce chapitre 11, avant ce verset 36, en disant « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. » Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et devant ça, l'apôtre appelle à une profonde humilité et demande à ses chrétiens, et nous demande, nous aujourd'hui, il nous exhorte, il nous appelle au secours. Venez avec moi pour vivre d'une manière digne de ces vérités, pour vivre d'une manière digne de ce si grand salut, pour vivre d'une manière digne de ce grand Dieu qui a fait, qui a accompli toutes ces vérités que je vous expose. Et si vous méditez, si vous n'allez pas trop vite, sur toutes ces vérités, sur ces 11 premiers chapitres aux Romains, alors vous allez être de ceux qui vont offrir un culte raisonnable. Mais il ne dit pas simplement « je vous exhorte », mais il dit « je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. Premièrement, l'apôtre, il est devant ce mystère, il se dit, il écrit aux Romains, et il y a beaucoup de païens parmi les Romains, il dit, mais avec la grâce que Dieu vous donne d'être greffé sur cet olivier d'Israël, de rentrer dans les alliances, et comment il a fait ça? En versant son propre sang. En versant son propre sang. Eh bien, par les compassions de ce Dieu qui a eu ce cœur d'Abraham, mais qui est allé jusqu'au bout. Vous voyez, quand Isaac dit à son père Abraham, « Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Imaginez-vous ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham. Où est l'agneau pour l'Holocauste ? Où il est ? Il lui a répondu quoi ? Dieu pourvoira. Parfois, vous savez, on peut être plus touché par ce récit d'Abraham que par ce que Dieu a fait. Dieu, il a bien pourvu. Jésus est l'agneau de Dieu. Et si vous méditez sur ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham, eh bien, vous méditerez sur ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Et après avoir donné son Fils pour verser son sang, vous comprendrez ce que dit Paul. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. J'ai envie de dire par le sang du cœur de Dieu. Des fois, on dit vite, Jésus dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était terrible pour Jésus d'être séparé du Père, mais c'était terrible pour le Père d'être séparé de Jésus. C'était terrible pour le Père de ne pas répondre à son Fils, de la même manière que c'était terrible pour le Fils de ne pas répondre à ces hommes qui lui disaient « Viens, descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. » En un instant, il aurait pu faire que cette terre se retourne. C'est lui qui l'avait créée. Et que ces pharisiens arrogants, ces prêtres arrogants qui lui disaient « Si tu es bien le Fils de Dieu, descends de la croix. » Eh bien, en un instant, il aurait pu faire qu'ils tombent tous à terre et que la terre tremble, et qu'elle soit même détruite, s'il vous plaît. Et ô combien il a accompli la volonté de Dieu, comme nous sommes appelés à l'accomplir, et il est resté sur la croix. Malgré tout ce qu'on pouvait lui dire, eh bien, il est resté sur la croix pour mourir séparé de Dieu. Et il n'a rien dit. Mais imaginez-vous le Père, quand Jésus lui a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ceux qui ont des enfants et qui s'imagineraient les voir sur la croix en leur disant, après tout ce que Jésus a vécu, leur dire encore « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, comprendront combien c'était terrible pour le Père de faire silence et de laisser son Fils mourir séparé de lui pour que le jugement qui devait retomber sur nous tombe sur lui, afin que nous puissions être rendus justes par notre foi dans ce sacrifice. Alors l'apôtre va dire, je vous exhorte, je vous appelle au secours à mes côtés par les compassions du cœur de Dieu. Par les compassions du cœur de Dieu qui accomplit toutes ces choses que je vous ai exposées pour vous, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce qu'il dit par là? Lorsqu'il parle à ces Romains, nous n'étions pas 2000 ans après, il fait référence au sacrifice de la première alliance. Et les sacrifices de la première alliance, je n'ai pas le temps d'en parler ce matin, mais vous pouvez lire la Torah et vous comprendrez que c'était toute une instruction pour notre vie à nous, chrétiens d'aujourd'hui, et aux chrétiens d'hier, à savoir ces Romains. C'était des sacrifices qui étaient purs. Les bêtes devaient être sans tache, sans aucun défaut. Elles devaient être parfaites. Elles devaient être parfaites. Pourquoi ? Pour être belle, pour être merveilleuse, non. Pour être brûlée sur l'autel de l'Éternel. Pour être offerte à ce Dieu de qui nous vient toute chose et pour qui sont toutes choses. Et donc, quand il dit un sacrifice vivant, saint, mis à part, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, il reprend cela au deuxième verset, quand il dit « afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait », il fait référence au sacrifice. Un sacrifice agréable à Dieu, un sacrifice parfait, un sacrifice qui est bon. Et nous lisons dans Malachie, je vous lirai quelques versets du chapitre 1 qui doivent, je crois, profondément parler à nos cœurs. Le prophète dit ceci, chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Je vous exhorte par les compassions de Dieu, par les compassions du cœur du Père. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte que l'on a de moi? C'est exactement ce que dit Paul face à toutes ces vérités. Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis le maître, et il l'est, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Vous voyez, ces sacrificateurs qui offraient des bêtes qui n'étaient pas agréables à Dieu, qui n'étaient pas des sacrifices bons et parfaits, eh bien, ils ne comprenaient pas en quoi ils méprisaient le nom de Dieu. Il ne comprenait pas. Il dit, si je suis un père, si je suis un maître, où est l'honneur qui m'est dû, où est la crainte que l'on a de moi? Je vous le dis à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Et il dira, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Et vous voyez, Paul y veut exprimer exactement ces choses. Face à la grandeur de notre salut, comment nous, nous nous offrons à Dieu? Et il nous appelle au secours pour qu'on ne soit pas comme ces bêtes qu'offraient ces sacrificateurs avant que Jésus ne vienne. Dans ce temple qui était pourtant restauré, qui avait été rebâti, reconstruit, eh bien Paul reprend ses paroles pour dire ne soyez pas comme ces sacrificateurs. Ne soyez pas de ceux qui boitent. Ne soyez pas de ceux qui sont aveugles. Si l'œil est bien la lampe du corps, que votre œil ne soit pas aveugle, mais que votre œil soit pur. Si je vous appelle à prendre des voies droites et que vous boitez, laissez-vous reprendre, comme dit Hébreux 12. Qu'est-ce que nous redonnons par nos vies à Dieu après avoir reçu la révélation de toutes ces vérités? Est-ce qu'on est comme ces sacrificateurs qui ne se rendent pas compte? Mais en quoi on a méprisé ton nom? L'apôtre, il veut dire, après tout ce que je vous ai dit, ne méprisez pas son nom. Ayez vraiment de la crainte et glorifiez-le d'une manière parfaite. D'une manière parfaite. Parce que ce n'est pas pour vous. Rappelons-le, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour Dieu. On lit dans l'Épître aux Éphésiens, on est sauvé pour servir à célébrer sa gloire. Comme je le priais tout à l'heure, on peut venir pour prier. Et finalement, essayez de vous rendre compte souvent ce qui peut se passer en nous. On aspire à ressentir sa présence. Finalement, on aspire plus à Dieu pour nous que pour lui. On veut ressentir son esprit. On veut ressentir des sensations. Et des fois, on vient plus prier pour nous et pas pour Dieu. Et les animaux, ils n'étaient pas offerts pour eux, ils étaient offerts pour Dieu. Et Jésus est ce souverain sacrificateur qui veut faire de nous ces animaux, si j'ose dire, c'est-à-dire ces victimes spirituelles. Et en même temps, nous sommes ces sacrificateurs qui sommes appelés à offrir à Dieu des victimes spirituelles, comme le dit l'apôtre Pierre. Et ces victimes spirituelles, qui sont ces animaux purs, sans tache parfaite, eh bien, elles ne sont pas notre gloire si nous sommes les sacrificateurs qui amènent les gens à la conversion. Elles sont pour la gloire de Dieu. Et tout est pour la gloire de Dieu. Et parfois, le fait d'être sauvé, le fait d'être béni, le fait d'être guéri, le fait de le louer, le fait de faire des réunions, on le dit, j'ai entendu des frères que je ne critique pas, qui sont chers, c'est une manière de parler, mais je prends cet exemple parce que pour moi, ça veut tout dire. On s'est régalé dans cette réunion. Alors certains le diront d'une autre manière, c'était vraiment fort cette réunion. Mais souvent on ne se rend pas compte que c'était fort pour nous. Le prédicateur, il a dit des choses qui nous ont beaucoup touchés. La présence de Dieu, elle était là et ça nous a fait du bien. Mais est-ce qu'on a fait du bien à Dieu? Où il est Dieu là-dedans? Où il est Dieu là-dedans? Et parfois, on est encore des chrétiens qui seraient comme un agneau, qui est pur, qui est sans tache et qui rentrerait dans le tabernacle, qui rentrerait dans les parvis pour recevoir la présence de Dieu, pour être béni. Et pourtant les animaux y rentraient pour être sacrifiés, bien-aimés, et pour qu'une fumée de bonne odeur monte vers Dieu. Et ça c'est agréable, et ça c'est bon, et ça c'est parfait pour Dieu, et ça c'est juste. Et c'est ça que l'on vivra pour l'éternité. Nous servirons à célébrer sa gloire, nous dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. C'est pour lui et pas pour nous. Et ça, c'est logique. Comme il le dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En grec, ça veut dire un culte que vous allez rendre à Dieu qui est logique. Si Dieu nous a créés, s'il a tout créé, si nous étions inexcusables, qu'il a donné son Fils, lui qui est mort en sacrifice pour nos péchés, c'est logique, c'est raisonnable, c'est tout à fait normal que nous nous offrions totalement à lui. Et non pas avec un œil qui est bien portant et un œil qui est aveugle. Un œil qui est dans la sainteté, un autre qui est dans le péché. La Bible dit que si la lumière qui est en toi est ténèbre, que sera ta ténèbre? Que si ton œil est dans les ténèbres, tout ton corps est dans la ténèbre. Et je crois que Dieu est en droit de demander ça de nous. Que nous aspirions, on a vite fait à dire « Ah, on n'est pas parfait ». Combien de fois j'ai entendu ça parmi les chrétiens? « Ah, on ne sera jamais parfait ». Et pourquoi on ne se soumet pas à la parole de Dieu et la parole de Jésus qui dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous serez saints comme je suis saint, dit le Seigneur. » Pourquoi on entend plus dire « Ah, je ne suis pas parfait ». On ne fait que de se donner des excuses. Parce que l'on ne se rend pas compte de ces 11 premiers chapitres aux Romains, de ce que Dieu a fait. Alors on se dit « Oui, mais tu comprends. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. » Et Dieu nous dit « Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Si j'ai fait toutes ces choses, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis votre maître, où est la crainte qu'on a de moi? Mais vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Eh bien, descends un peu en toi-même et médite sur le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et sur les versets 33 à 36 de l'Épître aux Romains. Et tu comprendras en quoi tu n'honores pas encore Dieu comme cela devrait lui être dû après ce qu'il a fait et accompli. Tu comprendras pourquoi tu n'as pas encore la crainte de ce maître comme tu devrais l'avoir. Parce qu'à se donner des excuses, on dit, ben oui, on peut offrir une bête boiteuse. Eh ben oui, on peut offrir une bête aveugle. Et Dieu dit, si tu l'offrais à ton gouverneur, est-ce qu'il te recevrait bien ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est que on craint plus les hommes que Dieu. Parfois, dans notre lieu secret, quand personne nous voit, ou peut-être quand on est uniquement avec son épouse ou avec son époux, on va faire des choses que si elles étaient mises devant l'église en pleine lumière, on en aurait honte. Et pourtant, Dieu, on l'a proclamé dans ce psaume 139, il voit tout, il sait tout. Avant même qu'on pense, il le sait. Alors quel honneur nous donnons à Dieu ? Quelle crainte avons-nous de lui ? D'autant plus après tout ce qu'il a fait. Je vous exhorte, je vous appelle au secours à venir me rejoindre par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, saint, ça veut dire mis à part, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quelque chose de logique. Ce ne sera pas quelle vie sanctifiée, quel homme de Dieu ou quelle femme de prière. Non, c'est quelque chose de tout à fait logique, de tout à fait normal. Malheureusement, c'est quand le Seigneur reviendra dans sa gloire que nous aurons des regrets et que nous nous rendrons compte. Et j'espère, comme le dit Dieu, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. J'espère que malgré toutes nos excuses, malgré le non-honneur qu'on lui aura donné, malgré la non-crainte qu'on aura eue de lui, il nous recevra favorablement. Parce qu'il est miséricordieux. Et cette miséricorde, elle nous brisera d'autant plus pour enfin l'adorer, comme il est logique de le faire, au siècle des siècles. Alors ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas, ça veut dire ne vous laissez pas influencer par ce monde extérieur, mais soyez transformés de l'intérieur. Le terme grec pour transformer, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire métamorphoser. Soyez métamorphosés de l'intérieur. Matthieu reprendra le même terme grec dans la transfiguration. Soyez transfigurés. Face à tout cela, soyez métamorphosés, soyez transfigurés, soyez totalement changés. Arrêtez de vous donner des excuses. Alors vous aurez une marche, une crainte qui fera que vous deviendrez saint comme il est saint, parfait comme il est parfait. Et laissons Dieu nous dire ce qu'il pense de nous. Mais tendons à ce qui est parfait. Sinon, en nous donnant des excuses, eh bien, on sera comme des bêtes boiteuses et on ne se rendra pas compte face à ce si grand salut que nous sommes des gens qui méprisent son amour surtout, par les compassions de Dieu. Et soyons vraiment métamorphosés, transfigurés de l'intérieur. Comment ? Par le renouvellement de l'intelligence. Qu'on soit renouvelé dans notre intelligence. Et comment notre intelligence peut être renouvelée ? Par la parole de Dieu. Par ces 11 premiers chapitres notamment, qu'on est appelé à méditer jour et nuit. Alors on ne s'assiera pas en compagnie des moqueurs, comme le dit le psaume 1. Mais on sera comme un arbre vert planté au bord des eaux, qui portera son fruit en toute saison. On portera vraiment un fruit digne d'une véritable repentance, d'un véritable salut par la foi, d'une véritable nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Et on a besoin de méditer jour et nuit cette parole pour qu'elle transforme, qu'elle métamorphose notre manière de penser, pour qu'on pense plus selon notre intelligence déchue, soumise au siècle présent, mais qu'on pense comme Dieu pense. Alors on pourra être saint comme il est saint. Et on pourra obéir. Obéir et mettre en pratique cette parole. Et l'adorer non pas pour vouloir ressentir quelque chose, mais pour ce qu'il est lui. Pour l'acclamer lui, et pour être pour Dieu et pour personne d'autre de vrais enfants, de vrais agneaux, de vraies victimes de bonne odeur, qui l'adorent parce qu'à lui seul est la gloire. On obéira, on fera l'inverse que ce qu'Adam a fait avec Ève en Éden. On écrasera l'interdit. On mangera jour après jour de l'arbre de vie. Oui, c'est la vie tout ça. C'est la vie, mais ça passe par la mort. Et si on ne se rend pas compte de qui est Dieu et de ce qu'il a fait et de comment il a marché aussi, eh bien cette mort, ce désir de sainteté en nous, eh bien, il ne bourra pas. Vous comprenez dans quelque chose, je veux dire. Ce sera de l'eau à 50 degrés peut-être, à 60 degrés de l'eau tiède. Mais si l'on médite et qu'on plonge nos regards jour après jour dans sa parole, eh bien alors on aura de l'eau qui sera à 90-100, qui dépassera même surnaturellement la température de l'eau qui bout, et ce feu de déchirer sans aucune excuse et de devenir ces animaux saints, agréables à Dieu, eh bien nous le deviendrons. J'écrivais au départ de ma conversion que je sois le chien de mon maître. C'est tout ce qu'il y avait dans mes entrailles, dans mon cœur, que je devienne le chien de mon maître. Et ça, c'était comme un feu en moi. Les chiens, c'est des animaux méprisables dans la parole de Dieu. Mais voilà ce que je voulais être, le chien de mon maître. Voir que j'étais rien après tout ce qu'il avait fait pour moi, et que je puisse le servir pour tout ce qu'il voulait pour moi. Il me donnera à manger ou il ne me donnera pas à manger, je l'adorerai. Je serai dans la joie ou dans la souffrance, je l'adorerai. Ce feu saint sera dans mon cœur, dès ici-bas et pour toujours. Je jetterai ma couronne comme ces vieillards devant lui. Parfois, on veut des paroles qui vont nous couronner de sagesse, d'intelligence, que sais-je. On les fait pour jeter nos couronnes devant le trône, bien-aimé. Pour jeter nos couronnes devant le trône. Alors, on discernera quelle est la volonté de Dieu et il reprend ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, non pas pour nous, la volonté de Dieu pour Dieu. La volonté de Dieu pour lui. On est appelé à devenir ce peuple comme ces animaux qui venaient pour être sacrifiés, pour ne faire rien d'autre que la volonté de Dieu. Pour réjouir le cœur de Dieu, pour consoler le cœur de Dieu. Que le Seigneur fasse de chacun de nos cœurs de ces sacrifices vivants. De chacune de nos vies, non pas lors des réunions, mais du matin au soir, cette fumée qui est agréable à Dieu. Non pas devant les hommes, mais devant celui qui est notre Père, devant celui qui est notre Maître, devant celui à qui est la gloire pour les siècles des siècles. Amen.